Alors, pendant les vacances scolaires, il n'y a pas d'enseignement pour les enfants. Si quelqu'un veut néanmoins descendre avec les plus petits pour un temps de jeu, garderie, ou sinon. Okay. Voilà, pour ce qui nous concerne ce matin, en fait, avec le groupe de jeunes, vont être abordées ce prochain trimestre des questions difficiles auxquelles les jeunes, et il y en a quelques-uns ce matin, sont confrontés, notamment les questions d'identité. Et qu'on le veuille ou non, les questions liées à l'identité sont fréquentes dans les collèges et lycées. Qui suis-je ? Problématique de compréhension de soi, d'affirmation de soi, de transidentité, d'homosexualité, etc. Et ensuite, on abordera aussi les aspects de relations garçon-fille, complémentarité, homme-femme, amitié, amour, sexualité, le couple, les projets de vie, avec bien sûr Dieu dans tout ça, le point de vue de Dieu, dans la mesure de ce que nous comprenons à partir de la Bible. Et comme ça nous intéresse aussi en tant qu'adultes, j'avais à cœur de faire quelques prédications introductives à ces problématiques, même si, reconnaissons-le, ce n'est pas facile. Par quel bout commencer ? Dans la Bible, le mot « boussole » n'existe pas. Et pour cause, cet instrument fort utile pour ne pas se perdre, pour pouvoir se positionner, pour savoir se diriger, n'avait pas encore été inventé quand la Bible a été écrite. Pourtant, aujourd'hui, plus que jamais, en tout cas c'est l'impression que j'ai, malgré le fait d'avoir la boussole, et même Descartes, et même le GPS, summum du progrès, l'être humain n'a pourtant jamais été autant déboussolé. L'être humain n'a jamais été autant déboussolé. La citation que j'ai mise dit « L'adolescent, moi j'élargis carrément, à moins que je n'aie pas un regard objectif sur notre société et sur nos contemporains, oui, déboussolé et mal orienté, et certainement le minimum que l'on puisse dire dans bien des situations. C'est malheureusement le problème de bien des gens et une des raisons pour laquelle, je pense, nombre de problématiques se posent, aujourd'hui en particulier. Mais même si le mot n'existe pas encore dans la Bible, le problème date de longue date. Si tu mets la suivante, Pedro. Considérez ces versets dans le livre du prophète Jonas que Dieu évoque concernant les habitants de la grande ville de Ninive, capitale du puissant empire assyrien de l'époque. C'est Dieu qui parle à Jonas à la fin du livre. L'Éternel dit « Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine ?» et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite de leur gauche. 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un grand nombre d'animaux. Effectivement, l'être humain ne sait souvent pas distinguer sa droite de sa gauche. Notez qu'on qualifierait certainement ces mots de doux euphémisme, mais c'est de la bouche même de Dieu. Des gens incapables de distinguer leur droite de leur gauche. Quand on sait qu'on parle de là des habitants de la capitale de l'Empire assyrien, comme je viens de le dire, on est à peu près dans les années moins 600, moins 700 avant Jésus-Christ. Empire assyrien réputé pour être des guerriers sauvages et sanguinaires, aux coutumes sympas de décapiter les chefs de ceux qui lui résistaient, de déporter une grande partie du reste des populations vaincues, de pratiquer l'esclavage, la prostitution, l'idolâtrie. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les mots de Dieu sont plutôt doux, même carrément plutôt mous. Des gens qui ne savent distinguer le bien du mal, traduira la Bible du Semeur, alors que bon nombre devaient quand même avoir une idée quand même assez nette de ce qui est bien de faire ou de ne pas faire. Enfin, à mon humble avis. Mais notez qu'il ne s'agit en aucun cas d'une indulgence ou du laxisme de la part de Dieu. Il ne s'agit pas d'excuser ou de trouver des circonstances atténuantes ou de ne pas tenir chacun responsable de ses actes et de les en exonérer. Non, il ne s'agit pas de ça, pas du tout. Relisez l'histoire de ce prophète Jonas, si vous ne la connaissez pas. La mission première de Jonas était d'avertir d'un châtiment imminent, d'une destruction imminente, en punition par Dieu des diverses erreurs et horreurs commises par ces gens, ou leurs responsables en tout cas. Bref, ce que je veux surtout souligner par la mention de ces versets, c'est l'attitude de Dieu. L'attitude de Dieu. Notons combien Dieu ne se désintéresse pas de ces gens. Et surtout, notons combien Dieu veut en avoir pitié. Et en a eu pitié. C'est le pourquoi de l'envoi de Jonas au préalable, pour prévenir, avertir, pousser au changement. Et Jonas, qui connaissait bien Dieu, connaissait évidemment bien le caractère de Dieu. Et c'est pour ça que quoi ? Il est parti en courant dans l'autre sens. Jonas, va à Ninive. Oui, d'accord. Et il prend le bateau dans l'autre direction. Ah, le Jonas. Je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre à la colère, en colère, et riche en amour, et que tu renonces volontiers aux menaces que tu profères. Avait dit le prophète quelques versets plus haut. Je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers aux menaces que tu profères. Magnifique histoire que celle du livre de Jonas. Magnifique et pourtant pas si facile que ça à accepter. Dieu qui ne punit pas les coupables. Dieu qui ne punit pas les méchants. Dieu qui ne punit pas les ennemis. Dieu qui ne punit pas les pécheurs. Parce que Dieu en a pitié. Il se sent concerné. Dieu a pitié de l'être humain déboussolé, en perte de repère ou carrément sans repère, perdu. Et cette situation l'attriste. Et il offre donc sa grâce. Sous condition, il faut bien le souligner, sous condition d'une repentance, bien sûr. Sous condition d'une repentance indispensable. Car il ne peut pas juste fermer les yeux sur le mal. Non, ça Dieu ne peut pas le faire. Dieu ne peut pas juste fermer les yeux sur le mal. Il en affirme la gravité. Mais il pardonne toute personne qui reconnaît le mal qu'elle fait et qui s'en repent. Il pardonne toute personne qui reconnaît le mal qu'elle fait et s'en repent. Dieu, plein de grâce et de compassion, lent à se mettre en colère et riche en amour, et qui renonce volontiers aux menaces qu'il a annoncées. Mon Dieu est comme ça. Ce n'est pas le vôtre. Dieu est bon et attentionné. Dieu veut le bien de chaque être humain. Dieu veut son salut et sa transformation aussi. Voilà le caractère de Dieu, de l'intention de Dieu pour les êtres humains. Élément important, primordial, je pense, à rappeler à quiconque ne le saurait pas ou en douterait. Élément capital à nous rappeler aussi, surtout si nous avons peut-être la fausse impression que le Dieu de l'Ancien Testament était plutôt un Dieu violent et vengeur, expéditif. Non. C'est là une partie primordiale du cadre de référence, la toile de fond, je pense, pour toute question complexe, ou pas complexe d'ailleurs, en particulier face à toute question délicate, apparemment inextricable. Gardons cela en tête pour éclairer toute notre réflexion et suivre l'exemple de Dieu dans notre attitude vis-à-vis de nos contemporains déboussolés. Et pour compléter la toile de fond, Pedro, si tu mets la suivante, le texte important aussi que je mentionne se trouve tout au début de nos Bibles, dans le livre de la Genèse. Et oui, le problème est bien plus ancien que l'exemple de Ninive. Il remonte à plusieurs millénaires, aux origines. Genèse, chapitre 3, je lis les cinq premiers versets. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu. » Vous connaîtrez le bien et le mal. Genèse chapitre 3. Oh non, pas cette mythologie, pas cette légende passéiste, pas cette histoire pour les enfants. Certains réagissent comme ça en considérant ces textes anciens, ou en tout cas les relativisent beaucoup. Pourtant, ce passage nous donne là, noir sur blanc, l'essence même du problème et des problèmes de notre société d'aujourd'hui. Ce passage nous donne là l'essence même des problèmes de notre société d'aujourd'hui. Si les gens sont déboussolés, ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, ne savent pas distinguer le bien du mal, c'est pour la simple et bonne raison qu'ils ont cru ou croient savoir discerner le bien du mal. Par eux-mêmes, hors de toute référence à Dieu. C'est pour la simple et bonne raison que la société en général croit savoir discerner le bien du mal par elle-même, hors de toute référence à Dieu. Non seulement erreur, non seulement illusion, mais carrément séduction, mensonge, le mot est plus fort mais aussi plus juste. Mensonge. Satan a quelque part réussi son coup, sans que là encore ça ne déresponsabilise en aucun cas l'être humain devant Dieu. L'être humain est responsable de ses choix. La suite du passage que je ne lis pas ce matin le montre aussi. Et malheureusement, si aujourd'hui encore nous essayons de pointer le doigt sur cette réalité-là, il n'y a pas toujours compréhension et repentance comme à Ninive, mais plus souvent déni et jeu de « Ah, c'est pas ma faute, c'est l'autre. C'est l'autre qui m'a dit. » Comme pour Adam et Ève. Force est de constater, effectivement, même si certains font de leur mieux, que l'être humain et la société ne savent pas distinguer et ne savent pas juger fondamentalement des choses, droite-gauche, bien-mal. Parce que l'être humain croit pouvoir se débrouiller seul en sortant Dieu de sa vie. Parce que l'être humain croit devoir se débrouiller seul, parce qu'il ne croit pas ou croit plus qu'il y ait un Dieu qui fasse partie de l'équation. Alors ça dérape, alors ça déraille, et cela s'accumule, s'accentue depuis des siècles, malheureusement. L'être humain s'est largement laissé séduire, s'est égaré et il a repoussé Dieu. Dieu est globalement passé à la trappe dans la conception des gens, et parce qu'à la place de Dieu, l'être humain a mis des tas de choses, il a même mis le hasard à la place de Dieu des fois, parce que l'être humain s'est cru lui-même Dieu, comme Dieu, c'était, et c'est encore le mensonge de Satan, parce que l'être humain s'est cru lui-même comme Dieu, ça dérape et ça déraille. On ne sait plus distinguer sa droite de sa gauche. On ne sait plus distinguer le bien du mal. Et l'être humain est aveugle, ignorant, dévoyé, déboussolé. Et souvent, pas qu'un peu. Alors les gens, la société, donnent de mauvaises réponses à de bonnes questions, à des questions légitimes. Alors il ne s'agit pas de dire que nous, à titre personnel, nous avons tout compris ou qu'on sait tout. Mais au moins, on s'appuie, on essaye en tout cas de s'appuyer sur celui qui sait tout, sur Dieu. Alors vous allez peut-être me dire qu'on est loin du sujet dont je parlais tout au début, de la prédication, mais pas du tout. Moi, je suis convaincu que si on prend d'abord ce recul pour faire un plan large de la situation, parce que si on n'a pas ce cadre de référence en perspective, nous non plus, on n'aura pas nécessairement les bonnes réponses aux questions difficiles de notre société, on n'aura pas nécessairement les bonnes réponses à donner à nos contemporains. Et la suivante, Pedro, la 6, la 5. Alors, on peut maintenant un peu plus se focaliser sur ce problème d'identité, de questionnement fondamental de tout être humain à toutes les époques. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Suis-je aimé ? À quoi est-ce que je sers ? Quel est mon avenir ? Pourquoi ? En un mot, suis-je là ? Pourquoi ? En deux mots, suis-je là ? De tout temps, on s'est posé ces questions, et il est légitime de se les poser. Et aujourd'hui, l'équation, c'est certainement encore compliqué, car d'autres questions que l'on ne saurait, que l'on n'aurait peut-être jamais personnellement envisagées viennent peut-être s'y ajouter. Suis-je un garçon ou une fille ? Un homme ou une femme ? Les deux ? Ni l'un ni l'autre ? Suis-je ce qu'on me dit que je suis ? Suis-je ce que j'ai envie d'être ou ce que je choisis d'être ? Dieu aime chacun, même qui ne sait pas distinguer sa droite de sa gauche. Et pourtant, on pourrait se dire que distinguer sa droite de sa gauche, c'est quand même pas bien compliqué. Alors, ni mépris, ni dégoût, ni rejet, ni jugement. Dieu aime chacun et voudrait que chacun trouve la bonne réponse à ses questions. Qui suis-je ? La Bible, quant à elle, répond « L'être humain ne trouve sa pleine identité, sa juste identité, sa belle identité qu'en Dieu, qu'en rapport avec Dieu, ou plus précisément qu'en rapport avec Dieu, qu'en relation à Dieu, qu'en relation avec Dieu. » Oui, l'être humain ne trouve son identité qu'en Dieu. Évidemment, liberté à chacun de penser le contraire, de penser autre chose. Mais je le répète, la Bible nous dit que n'importe quel être humain qui se questionne sur qui il est, y compris quelqu'un bien dans sa peau, et a fortiori quelqu'un mal dans sa peau, qui ne sait pas trop où il en est, quelqu'un dans la normalité, selon n'importe quel critère, peut-être pas tout juste d'ailleurs, comme quelqu'un qui sort d'une façon ou d'une autre de quelconque critère de normalité, peu importe, quiconque, pour reprendre le nom du destinataire du cadeau de Pâques qu'il y avait dans le sketch des enfants il y a 15 jours pour celles et ceux qui étaient là, quiconque trouvera la réponse et la seule réponse qui tienne la route à toutes ces questions, qui tienne durablement la route, qui tienne éternellement la route, en trouvant sa place auprès de Dieu, en Dieu. C'est ce qu'il nous faut répondre à nos prochains, à nos contemporains, aux autres collégiens ou lycéens ou adultes. Cette vérité n'a pas d'âge. Votre vraie identité, la seule qui vaille, est en Dieu. Votre vraie identité, la seule qui vaille, est en Dieu. De prime abord, la réponse sera peut-être insatisfaisante pour certains, voire pour beaucoup. Car cela fait partie des nombreuses choses qui ont été quelque peu évacuées, mises au placard, sinon aux oubliettes dans notre société. Le fait que l'être humain n'est qu'une créature. L'être humain n'est qu'une créature, mais pas une créature issue du hasard. Une créature issue de la main aimante de Dieu, du cœur de Dieu, le Créateur. Et ça, c'est deux chapitres plus avant dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, où Dieu dit « Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance. » Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, ou hommes et femmes plutôt, il les créa. Certes, cette position en Dieu, dans la dépendance de Dieu, fait que l'homme n'est lui-même pas comme Dieu, ni comme un roi, mais une simple créature dépendant d'un créateur et du créateur. Et n'être que créature, ce n'est pas toujours facile à accepter. Mais déjà, ça a le bénéfice d'ôter tout piédestal. C'est vrai, reconnaître, dépendre de plus grand que soi, reconnaître ne pas pouvoir être vraiment et pleinement indépendant, ne pas savoir par soi-même, cela fait qu'orgueil et vanité n'ont pas et n'ont plus leur place. Mais ce n'est pas du tout rabaissant. Ce n'est pas du tout rabaissant, sauf si vous ne connaissez pas vraiment Dieu, sauf si vous ne savez pas vraiment qui il est. Et là, je vous renvoie à l'exemple de démonstration de Dieu dans l'exemple de Ninive. Être une créature aimée de Dieu, c'est de fait élevant, gratifiant, rassurant. La clé pour continuer à vivre, à revivre même, c'est la bonne place, mon identité retrouvée. En Dieu, je sais qui je suis. En Dieu, je sais qui je suis. À l'opposé, la société dit de plus en plus « Tu peux être, et même tu dois être ce que tu veux, qui tu veux. » Ne plus subir, décider. Il n'y a plus d'absolu que du relatif, que du subjectif. Et celui qui pense le contraire est un intolérant. D'un excès répressif pendant longtemps, qui n'a pas fondamentalement résolu et répondu au problème, le balancier est désormais parti dans un excès totalement inverse. Et franchement, le manque de cadre, même s'il n'a pas besoin d'être coercitif, ce cadre, le manque de cadre, je ne suis pas sûr du tout que ça aide les gens. Et même je suis sûr que non, ça ne les aide pas, car par conception, On vient juste de rappeler le fait que nous avons été créés, voulus, conçus par Dieu. Par conception, l'être humain a besoin d'un cadre. L'être humain a besoin d'un cadre salutaire, structurant, rassurant. Plus balisage que prison. Et il suffit de voir l'évolution de la société pour se rendre compte qu'il y a un cadre qui manque à bien des égards. C'est en tout cas mon avis de vieux schnock, hein. Il commence à avoir des cheveux gris. C'est en tout cas un cadre que Dieu nous offre aussi, sans nous l'imposer. Bref, si vos copains ou vos copines, pour les jeunes, vos amis ou collègues, pour les moins jeunes, ont une identité incertaine, une identité surévaluée ou une identité sous-évaluée, ou une identité qui ne semble pas cadrée avec ce que Dieu nous propose, dites-leur simplement que leur juste place, leur identité, c'est en Dieu qu'ils l'auront vraiment et pleinement. Oui, c'est en Dieu qu'ils auront leur réponse, si tant est qu'ils se questionnent. Et je prie pour que Dieu les questionne, en tout cas. Prions pour que Dieu interpelle et questionne nos contemporains. Ils auront leur réponse en Dieu, accessible par Jésus-Christ. C'est sûr que le problème sur ce sujet de l'identité, comme sur beaucoup d'autres, sinon tous les autres, c'est que quand les gens, si et quand ils se posent des questions, le problème c'est souvent qu'ils ont déjà un peu trop une idée préconçue de la réponse qu'ils voudraient entendre. Ils voudraient juste qu'on abonde dans leur sens, qu'on leur dise « oui, 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 c'est bon, vas-y ». Mais contrairement à la société, Dieu ne nous répond pas toujours simplement que tout est bien ou que tout lui est égal ou que tout est conforme à sa volonté. Et il ne nous dit pas que tout nous fera du bien et nous épanouira vraiment. Mais comme la société est intolérante à la contrariété, allergique à certaines vérités, les choses effectivement ne seront pas toujours faciles. Mais manifestons la même compassion, la même pitié, le même amour que Dieu, et nous aurons fait notre part. Nous aurons fait notre part. Oui, à toute personne, dites-lui que Dieu l'aime, et même que Dieu l'aime telle qu'elle est, même si, bien sûr, il ne voudra pas nécessairement souvent qu'elle reste la même. Dieu restaurera. Il reconstruira, il sanctifiera, il transformera à son image. Et on part tous de loin. On part tous de loin. Les pièces du puzzle prendront forme petit à petit par la grâce de Dieu, en Dieu. Peut-être que cela vous frustrera, mais j'aborde volontairement pas ce matin les problèmes familiaux, sociaux, médicaux. Personnalité, relationnelle, émotionnelle, hormonaux, physique, psychique, psychologique et même psychiatrique, des fois, qui sont malheureusement souvent aussi une partie de la problématique identitaire. Il faut le reconnaître, il y a ça aussi souvent. Excusez-moi, moi je suis pasteur, donc je propose plutôt des pistes pastorales. Alors, il ne s'agit pas d'éluder ou de minimiser ces aspects, des problématiques, qui certainement sont aussi des causes de mal-être, et de perte d'identité. Et il faudra assurément les adresser à un moment ou à un autre, au cas par cas, dans l'accompagnement de ces personnes. Et c'est plus compliqué de rentrer dans ce niveau d'approche au niveau d'une prédication. Mais si vous avez des questions particulières sur ces sujets d'identité, de relations, etc., les jeunes notamment, mais aussi les moins jeunes, on va mettre en place aussi un truc informatique. Alors, nos spécialistes informatiques feront ça pour qu'on puisse poser des questions, des remarques, des suggestions à titre anonyme. Comme ça, en répondant C'est Fred qui va gérer ça. Mais ça sera l'occasion, c'est important, je pense, aussi pour guider ce que, au niveau du groupe de jeunes, pourra être dit, et aussi, nous, dans nos partages à nous, de voilà, savoir quelles sont les questions particulières, ouais, les remarques, les suggestions qu'on peut partager pour creuser ensemble ce sujet, parce que c'est un sujet, on le voit bien dans le quotidien, on le voit bien avec plein de gens autour de nous, on le voit bien même dans nos familles, on le voit bien à la télé, on le voit bien dans nos collèges et lycées, que c'est une grosse problématique, des gros questionnements. Et c'est important qu'en tant que chrétien, qu'en tant qu'Église, on ait aussi, nous, des certitudes, des assurances, pour être nous-mêmes en paix sur ce sujet-là et pouvoir partager aussi cette paix et cet amour de Dieu. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Que ce soit en tout cas pour chacun et chacune d'entre nous une assurance au quotidien. Voilà, et sujet à suivre la prochaine fois, dans 15 jours, pour celles et ceux qui seront là. En attendant, je vous invite à prier.